Mais c'est pas de la littérature, ça.
Pourquoi tu fais ça?
Tu fais pas mémoire là-dessus?
Il est où le lien avec la littérature, là?
Il est où le lien avec la littérature?
C'est trop nul.
Mais c'est pas de la littérature, ça.
Vous écoutez Mais c'est pas de la littérature, ça, le podcast de la revue Écoécrit. Vous êtes sur le podcast de la revue Écoécrit. Je suis Amélie Ferret. Je suis accompagnée de mes acolytes Maïla Legentil et Fanny Ose.
Moi, c'est Maïla Legentil, je fais partie du Master LGC à Rennes 2.
Et moi, c'est Fanny Ose, je suis là parce que je fais du podcast avec l'association Studio Dilettante qui s'occupe notamment du podcast Ludologie.
Comme nous sommes toutes les deux étudiantes, peut-être qu'on va présenter un peu nos sujets de recherche qui sont essentiellement liés à ce qu'on va faire aujourd'hui.
Moi, je travaille sur la littérature audio et plus particulièrement ce qu'on appelle Saga MP3 ou Saga Audio. Et à la fois les processus de création et de réception de ce genre assez nouveau.
Et est-ce que tu as des exemples de Saga MP3?
Bien sûr, le plus connu, c'est Niall Buck qui a un peu inauguré le genre, même si c'est pas vraiment le premier. Et moi, c'est en particulier sur Reflet d'Acide qui est, à mon sens, une des sagas les plus abouties aujourd'hui.
Et moi, je travaille sur la notion fiction et interaction. Donc, j'ai un corpus assez riche avec à la fois du jeu vidéo, des livres dont vous êtes le héros, des ARG. Vraiment beaucoup de choses qui, essentiellement, ne sont pas présentées comme de la littérature.
C'est un peu notre problème et c'est aussi pour ça qu'on est là. On va défendre notre cause, en fait.
Et du coup, le podcast, c'est un complément à une revue, si j'ai bien compris, la revue Écoécrit.
Oui, c'est ça.
Est-ce que vous pouvez préciser de quoi il s'agit?
En fait, c'est un projet de revue qu'on mène avec notre promo M2 LGC Parcours Éco. Dans ce projet, nous avons une revue qui s'appelle Écoécrit et qui a pour sujet la littérature sauvage.
La littérature sauvage, c'est-à-dire...
Bon, c'est un sujet assez vaste, volontairement choisi comme tel, puisque ça nous permet de laisser assez libre champ à toutes les propositions qu'on peut recevoir. Donc à la fois tout ce qui concerne la littérature « illégitime », entre guillemets, et puis la littérature de la découverte, enfin tout ce qu'on peut expérimenter dans le champ de la littérature, en fait.
Et du coup, toutes les deux, est-ce que vous avez des difficultés avec vos sujets dans le cadre de l'université, dans les champs littéraires? Est-ce que vous avez eu des exemples de retours, pas volontairement méchants, mais qui sont parfois un peu fatigants quand on travaille sur quelque chose pendant des heures?
En fait, en littérature, on étudie surtout du livre, et les personnes ont souvent du mal à se détacher un peu de l'objet livre ou ressentent un malaise, je pense, face à des fictions multimédia qui ne sont pas essentiellement textuelles. Et on a souvent des questions un peu naïves comme « mais je comprends pas, qu'est-ce que c'est le rapport avec la littérature ? Et en quoi c'est de la littérature ? Et pourquoi tu appelles ça littérature ? » Surtout toi, Maïla, tu t'acharnes à appeler ça littérature, même si tu as pu avoir des... Du fait que c'est de la saga audio, t'as eu...
J'appelle pas ça nécessairement de la littérature pure et dure, mais je revendique, oui, le lien filial qui relie mes œuvres au champ littéraire.
Mais c'est quand même assez fou, parce que je suis allée chercher la définition de votre discipline, littérature générale et comparée. On dit que c'est une discipline qui étudie les littératures, au pluriel, non en elles-mêmes, mais dans leur rapport avec l'étranger, les arts, les pratiques sociales et culturelles. La matière est changeante, en évolution constante depuis plus d'un siècle et nécessite d'en redéfinir périodiquement la nature et les contours. Et du coup, en cherchant un peu, je vois qu'il y a plein de recherches sur littérature et cinéma, littérature et musique, littérature et peinture. Donc dans ces cadres-là, il n'y a pas de problème, si je comprends bien. Par contre, quand on va commencer à parler d'audio, mais pas d'œuvres savantes classiques, mais de fiction MP3, ou quand on va parler de jeux vidéo ou de jeux de rôle, ça pose problème.
Bah, c'est vrai que les gens ont un peu du mal à sortir des sentiers battus par rapport à ça. Il y a clairement des disciplines qui sont mieux vues que d'autres. Après, les œuvres filmiques, pour le coup, le cinéma, sont... Autant on peut tout à fait revendiquer la littérarité des adaptations, autant on ne va pas dire du cinéma que c'est de la littérature. Enfin, la plupart des gens, enfin, pour moi, si, parce qu'il y a, encore une fois, c'est hybride, comme beaucoup de médias assez récents. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'était ça, que justement, les gens, pour eux, un livre, c'est un livre, un film, c'est un film. Enfin, chaque chose est bien dans sa petite case et on ne mélange pas, quoi.
Moi aussi, là, je pensais à quelque chose, c'est que la plupart des objets de mon corpus sont hybrides dans le sens que c'est de la fiction et à la fois c'est très souvent du jeu. Et il y a peut-être aussi cet aspect qui donne peut-être l'impression que c'est pas sérieux et que du coup ça vaut pas la peine d'être étudié à l'université. S'ils vont dans une démarche ludique, ils s'attendent pas à trouver des réflexions profondes et pourtant...
Alors qu'il y a plein de livres qui sont essentiellement ludiques et personne ne trouve rien à leur dire.
Et puis maintenant, les game studies à l'université commencent à s'installer en France. Bon, ça fait une palanquée d'années que c'est étudié et où il y a de la recherche dans les pays anglo-saxons. On ne dira pas qu'on est à la traîne, mais un petit peu quand même. Et vous, du coup, Amélie,
oui.
Toi, ton sujet d'étude, tu disais c'était la fiction et interaction.
Oui, c'est ça.
Et plus en détail, qu'est-ce que c'est ?
En fait, j'essaye de m'interroger sur ce croisement entre fiction et interaction et qu'est-ce que ça amène du point de vue du lecteur. C'est-à-dire, en quoi le lecteur... qu'est-ce qu'il fait quand le lecteur est impliqué dans ce type de fiction ? Souvent, on peut retrouver une sorte d'avatar fictionnel. En fait, ce que je trouve absolument fascinant, c'est surtout sur ça que j'axe mes recherches, et par le biais de questionnaires, de rencontres avec des joueurs, et même par ma propre pratique, je me rends compte que quand on rentre dans une fiction interactive, on n'a pas le même rapport que quand on rentre dans une fiction tout court. C'est-à-dire, quand on lit un livre ou quand on regarde un film relativement passivement, c'est pas la même chose, c'est pas la même démarche que quand on va rentrer dans un jeu et créer son personnage et lui inventer une histoire et ensuite appréhender l'univers de la fiction. Et je trouve ça super intéressant de regarder ce que les gens ont à dire ensuite de leur expérience, et c'est un petit peu ça que j'essaye de comprendre. Pourquoi, comment et à quelle fin.
Ouais, c'est ça, il y a un vrai enjeu de réappropriation dans ce genre de fiction. La littérature te donne un cadre, si tu veux, qui n'est pas forcément visible pour tout le monde d'ailleurs, et c'est à toi d'en faire ce que tu veux. Après, c'est vraiment beaucoup plus libre que dans un livre, et c'est ça qui a tendance à perdre les gens, justement.
Et toi, du coup, Maëla, c'est quoi ton sujet plus spécialement de mémoire ?
Bah, moi, je m'intéresse à... Le point de départ de mon sujet, c'était de prouver que la saga audio était un genre hybride, de fait, mais qui se revendique de la littérature. C'était quelque chose qui me tenait à cœur, de prouver qu'on pouvait le définir comme tel.
Et pas simplement du fait qu'il y avait des rimes.
Exactement.
Ah, mais c'est fou qu'on en doute, parce que moi, tout de suite, ça me fait penser à notamment tout ce qui est littérature populaire. Il y en a beaucoup qu'aujourd'hui elles sont étudiées, c'est des œuvres instituées, classiques, c'est du collectage oral en fait. À l'origine, c'est que de l'oralité, ça a été finalement mis par écrit, mais je veux dire, on aurait eu la technologie pour le faire, tous les contes et légendes, Anatole Le Braz, ça aurait été peut-être de la fiction audio qu'il aurait pu enregistrer dans les campagnes, et ça aurait pu être mis en fichier MP3 et en saga.
Oui,
au lieu de se réunir autour du feu, bah, on aurait passé une cassette,
et voilà.
C'est ça.
On aurait écouté le conte de mamie par fichier audio.
De toute façon, l'histoire le prouve, tout ce qui est étudié en université a commencé par être boudé et décrié. On a commencé comme ça avec le cinéma. Le cinéma, avant, c'était nul. Il fallait préférer le livre. Et maintenant, c'est le cinéma qui est... Il est hissé au même rang que la littérature. Mais le jeu vidéo, on ne comprend pas encore. On pense que c'est tout simplement commercial. Or, je pense que renier le jeu vidéo, c'est passer à la trappe des œuvres, de véritables œuvres. Parce qu'il y a énormément de jeux vidéo indépendants maintenant qui ont un véritable intérêt artistique. Et d'autant plus que le jeu vidéo est une des plus grandes industries culturelles maintenant. Et c'est quand même dingue de se rendre compte que les gens le continuent de le décrier.
Et on a eu le même problème avec les formats de livres, tout simplement, d'ailleurs, parce que quand on est passé au codex, quand il y a eu le livre de poche, ça a été un scandale. Personne ne voulait acheter ces livres comme ça parce que c'était censé être moins bien que le livre dans son vrai format, moins noble.
Oui, mais à partir du moment où c'est populaire, où tu as un plus grand nombre, de toute façon, c'est un peu comme si, dans la logique, s'il y a plus de gens qui peuvent y accéder, ça va se diluer, en fait.
Oui,
donc, et perdre en qualité. Alors que... quand on est sur du livre ou du jeu vidéo, non, ça peut être exactement la même qualité, redistribuée à beaucoup plus de gens, en fait.
C'est ça.
Et c'est ça qui est vachement intéressant, du coup, avec nos sujets, c'est que comme ils évoluent, moins pour le jeu vidéo, parce qu'en général, il faut quand même l'acheter, mais moi, la saga audio repose essentiellement sur un principe de gratuité et de partage sur Internet, en fait, et c'est vraiment... enfin, ça évolue très librement et c'est la popularité qui... C'est le fait que ces sagas audio aient eu tellement de succès qu'aujourd'hui, elles sont reconnues comme genre, en fait, et que moi, je suis en mesure de les étudier. Enfin, Internet permet au peuple de s'exprimer, en fait.
C'est vrai.
En France, j'ai l'impression qu'on a particulièrement ce complexe de littérature populaire... Dès que ça devient trop mainstream, ça peut pas être quelque chose. Ça peut pas faire partie de l'élite, en fait.
Oui, c'est ça. En fait, il y a une obsession de hiérarchie, quoi qu'il arrive. C'est que dès que tu vas étudier quelque chose, ce sera plus par loisir et pas en faire des recherches complètes, quoi, sur un sujet. Ce qui est dommage, parce que, bah, comme tu le disais tout à l'heure, on tourne plus ou moins en rond, en fait. Et voir. Enfin, voir des œuvres comme ça qui sortent de la norme, ça permet de s'enrichir. Et quand on se heurte en fait à des fictions qui sortent de la norme, en fait, on a tendance à... Ça déclenche quelque chose un peu dans notre cerveau et du coup, on applique toutes nos nouvelles... notre nouvelle vision, on l'applique à d'autres choses et c'est là qu'après, on se rend compte qu'on peut vraiment tout étudier. C'est juste une question de méthodologie, quoi.
Un autre point que je trouve super intéressant quand je vous écoute, c'est que vous êtes passionnée par vos sujets. Vous avez les yeux qui brillent, c'est trop cool. Alors que son mémoire, on ne le choisit pas. Bon, on essaye à peu près de le choisir, mais ce n'est pas toujours le cas. Et je me dis, quand on travaille sur des œuvres classiques qui ont été étudiées à peu près 40 000 fois, j'ai déjà trouvé un angle innovant sur, je ne sais pas, Madame Bovary ou... Et compagnie, voilà. ça doit être et puis ça doit être ronflant comme sujet. Du coup, vous, ça vous donne la possibilité d'être un peu plus dans le côté passionné par votre sujet, être plus dans l'innovation, puisqu'il y a peu de choses écrites.
Ouais, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont passionnés par Madame Bovary.
Oui, hein. Oui, c'est sûr.
Après, il y a plein, ça dépend vraiment de chacun. Il y a des sujets que moi je trouve ronflants que d'autres vont adorer, mais bon. Moi, clairement, en plus, ça fait 3 ans que je suis dessus, ça m'aurait un peu embêté de devoir faire mon mémoire sur quelque chose qui me passionne pas plus que ça. C'est parce clair. Que même quand ça te passionne, c'est déjà un travail sur soi de s'y mettre, d'écrire, de faire les recherches. Enfin, s'il n'y a pas de passion, ton mémoire, ça va s'en ressentir, c'est sûr.
Mais moi, j'ai toujours dit, depuis que j'ai commencé mon mémoire, je le dis à tout le monde que de toute façon, j'ai un avantage par rapport aux autres personnes, c'est que quand les autres sont en train de travailler, moi, je suis en train de jouer aux jeux vidéo.
C'est ça.
Et c'est un petit peu... c'est pas vraiment une bonne façon de voir mes recherches, parce que je fais des choses très sérieuses d'un autre côté, mais en même temps, c'est un petit peu vrai que le fait que, étudier quelque chose qui te passionne de base, en fait,
Tu t'amuses en travaillant.
C'est ça,
ouais. Mais est-ce que tu continues à t'amuser en jouant aux jeux vidéo, par contre, quand t'es pas en mode recherche ?
En fait, moi, j'ai l'impression que je suis tout le temps en mode recherche. Bah je suis tout le temps en train de me poser des questions et de me dire « Oh, mais ça, c'est vachement bien. Et tu crois qu'il voulait faire ça ?» Et suranalyser tout. Donc, au final, j'ai l'impression que c'est plutôt la vie, le mémoire. C'est tout le temps ça.
Tout est potentiellement un petit plus que tu peux mettre à telle page de ton mémoire. Un petit exemple en plus, un contrepoint. Tu vois des informations partout.
Mais c'est en plus, c'est même pour ça que j'ai du mal à pas avoir un sujet à rallonge, parce qu'en fait, assez régulièrement, je me dis, mais ça c'est trop bien, je devrais l'intégrer dans mon étude, et j'arrête pas. Et bien sûr, ma directrice ne m'arrête pas non plus, parce qu'à chaque fois, j'ai réussi à bien lui vendre, donc...
Et du coup, ton corpus, là, il y a combien d'œuvres dedans ?
Oh là, non mais je crois que j'ai jamais compté et je compterai jamais parce qu'à chaque fois, il suffit que je rédige quelque chose et que je me rende compte que tel jeu vidéo, juste pour cette explication, il rentre bien et hop, il glisse aussi.
C'est pour ça que moi, ça m'arrange de m'être vraiment forcée à me cantonner à une œuvre. Bon après, c'est une œuvre, mais elle fait quand même presque 10 heures d'écoute en tout et pour tout, sans compter les bonus, donc c'est quand même un sacré morceau.
Tu l'as écouté combien de fois, du coup ?
Voilà, bien trop pour pouvoir le compter.
Tu peux le réciter.
Par cœur, mais par cœur, vraiment.
Même les bruitages.
Tout. Les riffs.
Ouais, mais c'est vrai que pour l'instant, là, l'essentiel des travaux là, que j'ai pu lire ou de chercheurs que j'ai pu rencontrer, effectivement, ils sont plus soit sociologues. Y a Vincent Berry qui travaille sur la sociologie des joueurs. Ou alors, c'est cinéma et audiovisuel. Et donc, du coup, ils sont à la fois sur la narration, c'est important, comme dans le cinéma, ça va être important, mais ce n'est pas l'essentiel, effectivement. Et du coup, tout l'aspect littéraire passe un peu peut-être à la trappe.
C'est ça. Mais bah, j'avais noté ça, justement, en fait, il y a un souci, en fait, déjà, c'est que les études que je retrouve, enfin, les recherches que je retrouve, qui rentrent à peu près dans mon sujet au niveau de l'interaction et tout, le problème, c'est que ils vont... En fait, il y a deux approches quand on fait des game studies qui sont essentielles. C'est d'un côté la ludologie et de l'autre la narratologie. Et pour eux, c'est absolument incompatible. C'est-à-dire que quand tu as des bons principes ludiques d'un côté, tu ne peux pas avoir un bon scénario de l'autre. Et souvent, quand ils donnent des exemples, c'est un peu aberrant. C'est des jeux qui ont plus de 30 ans et auxquels... quand on dit jeux vidéo et interaction ou jeux vidéo et scénario, on pense absolument pas à Mario, quoi. Et c'est pourtant directement la référence ultime dès que quelqu'un qui est hors du jeu vidéo... En fait, c'est ça qu'ils vont imaginer. Tu vas dire, je vais étudier le jeu vidéo, la narration dans le jeu vidéo, et ils vont s'imaginer Pong ou Mario, ce qui est un peu aberrant. La narration dans
Pong. C'est ça. Non, mais... bon, vous avez 3 heures. La narration dans Pong.
Non, mais en fait, c'est dingue. J'étais allée à une rencontre avec un chercheur qui présentait une œuvre littéraire qui, de fait, était qui est un peu hors norme. C'est House of Leaves, qui, elle, se démarque beaucoup par rapport à l'objet livre tel qu'on le voit traditionnellement. Et d'un...
C'est quoi?
Ah, House of Leaves. Oh là là, ça va être compliqué à expliquer ça.
En gros, c'est un bouquin avec un scénario un peu emmêlé, en fait, qui aime bien mettre des morceaux de texte un peu dans tous les sens, du terme, en fait. À la fois partout dans le livre et surtout dans n'importe quel sens sur la page.
Et dans les notes de bas de page.
Ouais.
Il y a de la narration dans les notes de bas de page, mais par un autre narrateur. Enfin,
c'est une histoire très décousue, tu sais pas dans quel sens la lire, et en même temps, c'est un peu un livre d'enquête, tu sais, genre tu le lis et tu comprends qu'il y a... tu dois faire un travail dessus pour comprendre
les dessous du... Oui, c'est ça. Et du coup, le chercheur présentait House of Leaves, et une étudiante lui faisait la remarque qu'il y avait des jeux vidéo avec plusieurs fins alternatives. Donc là, j'ai commencé à avoir les yeux qui brillent, parce que c'est exactement ce que je voulais dire. Et tout de suite, lui, les références qu'il avait, c'était dire « Oh oui, mais non, les jeux vidéo, c'est pas possible. Moi, il y a 20 ans, quand j'étais jeune, il y avait ça. » Oui, non, mais ça a beaucoup changé, quoi. Tu peux pas te baser sur ce qui se faisait il y a 30 ans par rapport à nos recherches à nous, quoi. En fait, c'est même le problème que j'ai, c'est que c'est de l'ultra contemporain, en fait. Les jeux que j'étudie, que ce soit les jeux Telltale ou... ouais, essentiellement les jeux Telltale ou même...
Ah, les RPG les plus récents, quoi. Ça reste les mieux construits en matière de narratologie.
Oui, les RPG, ouais, c'est ça. Bah, c'est parce qu'il y a pas mal de... Bah, il y a du jeu de rôle dans
le... Il y a une vraie construction de scénario, des personnages. Enfin, c'est un roman, en fait. C'est juste que c'est toi qui le joues. C'est un peu un roman dont vous êtes le héros, en fait.
Ah oui, non, mais c'est totalement ça. Puis,
Quand tu prends quelque chose comme Life is Strange...
Ah, bah oui, oui.
Par exemple, où là... D'aspect, on pourrait presque croire que c'est hyper dirigé, que t'as peu de choix à faire, alors qu'en fait, la totalité de ce que tu choisis de faire jusqu'à arroser la plante peut avoir un impact sur l'histoire. Pourtant, ça reste une histoire que tu vis de manière linéaire, en fait. Donc, le rapprochement avec le roman, il est quand même présent.
En fait, c'est marrant que tu parles de ça, parce que Life is Strange, c'est le premier jeu vidéo à avoir intégré mon corpus, parce que c'était la première fois que je me lançais dans un jeu où j'avais véritablement un impact et pas un impact simulé, tu vois, où on te fait croire que c'est toi qui choisis alors qu'en fait la fin elle reste la même. Dans Life is Strange, t'as une multitude de choix, et les choix qui te semblent, comme tu le dis, anodins, ils vont avoir un impact démesuré par la suite, et jusqu'à l'issue finale, enfin, tu choisis... Tu fais vraiment la progression comme tu l'entends. Et petit à petit, j'ai commencé vraiment à me lancer dans des jeux avec une immersion toujours plus intense.
Dragon Age.
Dragon Age. Oh, mais elle le sait, elle sait déjà que je parle de Dragon Age.
Dragon Age.
Non, mais en fait, je dis Dragon Age, mais tous les jeux BioWare, en fait, ils sont réputés, en fait, pour jouer avec les sentiments du joueur par rapport à l'implication. C'est que, en fait, dans Dragon Age, quand c'est un jeu où tu incarnes un Grey Warden, c'est ça que ça s'appelle? Enfin, en tout cas, tu es avec toute une clique d'aventuriers que tu choisis, et vous allez plus ou moins devoir sauver le monde ensemble. C'est assez classique, mais ce qui se passe, c'est que tu choisis qui tu gardes dans ton équipe. Et en fonction de qui tu as dans ton équipe, les choix que tu vas faire plus tard, c'est-à-dire tuer telle personne ou prendre le parti de telle personne, tu t'en rends pas compte sur le coup, mais quand tu rentres à ton camp, Mais tu te fais laminer si t'as pas fait le bon choix selon la morale de tel personnage. Tu peux perdre du... Enfin, tu peux être très, très ami avec tes... Enfin, t'as des points de... Comment on appelle ça ? Des points d'amitié, quoi, tout simplement. D'affinité avec tes camarades. Et il suffit que t'aies fait une chose mal et tu te retrouves à plus pouvoir lui adresser la parole. Et en fait, c'était vraiment des... Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça sur Internet, comme quoi c'est des moments où ils ont eu le cœur brisé, quoi. Alors que c'est que des personnages de fiction.
Et je trouve que c'est très littéraire, cette façon de vivre le scénario de façon aussi intense. Et en plus, dans Dragon Age, ce qui est particulier, c'est que tu finis par t'identifier à mort à ton personnage parce que t'as des relations, toi, par rapport à ce que tu as fait avec les autres personnages. Et tu me disais qu'ils discutent tout le temps. Enfin,
ouais.
C'est presque une simulation de vie, en fait. Et ça, c'est très littéral.
Et tu finis vraiment par t'attacher d'un... C'est aussi les personnages... parce que je partage ton affection pour Dragon Age. Hein.
Yes.
Mais les personnages sont ce qu'il faut caricaturer pour avoir une identité propre
que tu comprends
rapidement, mais ils sont assez complexes pour que tu puisses vraiment t'attacher. Et ils sont pas complexes seulement par les interactions qu'ils ont avec le personnage joueur, mais également entre eux. Et je ne sais pas combien d'heures de doublage ont pu faire les doubleurs, mais ils ont des conversations qui sont super longues et je n'ai jamais remarqué, hein, si peut-être deux ou trois fois sur la totalité de jeu de remarques qui revenaient vraiment mot pour mot les mêmes en fait, ou alors c'est juste qu'ils arrivent à les caler de manière assez aléatoire pour pas que ce soit choquant à l'oreille et on se dit pas ah non c'est bon on l'a entendu
Mais c'est ça, mais en fait on en revient toujours à parler de Dragon Age parce que c'est vraiment pour moi un jeu assez incroyable parce que bah, justement d'habitude les séquences où tu vas d'un village à un autre elles sont, on va dire, mortes. Il y a juste de la musique d'ambiance, t'entends les bruits de pas. Alors que là, c'est ponctué par des petits accrochages entre personnages qui se balancent des clashs entre eux. Enfin, c'est très vivant comme jeu.
En littérature, c'est typiquement ce qu'on appellerait une œuvre monde, tu sais, genre quelque chose d'ultra complet que t'as jamais fini d'explorer. Mais là, je trouve que c'est, enfin, l'immersion est vraiment poussée au maximum, en fait.
Et du coup, là, par rapport à Dragon Age, ça fait partie de tes œuvres dans ton corpus.
Ouais.
Type d'analyse littéraire ou d'outils d'analyse littéraire tu peux appliquer en fait à cette œuvre-là dans ton mémoire.
En fait, mon approche de Dragon Age et même du jeu vidéo en général, comme je suis sur des œuvres avec différents embranchements, ce que je fais, c'est que j'ai demandé à plusieurs personnes de jouer les mêmes quêtes que moi. Mais de la jouer de manière, enfin, de la jouer à leur façon. Et de noter, en fait, qu'est-ce qui se passe quand ils font tel choix ou qu'est-ce qui se passe quand ils disent telle chose à la personne. Et moi, mon intérêt, en fait, c'est de voir, en fait, quel est l'impact réel du joueur sur l'univers du jeu. Quelque chose qu'on ne voit pas, par exemple, dans la littérature, quand tu te contentes quand tu parcours le livre, tu sais très bien que le fait que tu tournes la page ou non, ça ne va pas influencer le scénario lui-même qui a été écrit, alors que quand tu joues à un jeu, la simple sélection de répliques peut avoir une conséquence désastreuse sur ta relation avec tel personnage ou simplement le monde qui t'entoure.
Ouais, c'est de la théorie de la réception, en fait, tout bêtement.
Pour le coup, en
littérature, c'est vraiment étudier la façon dont les joueurs se réapproprient une œuvre littéraire. Ouais. Et moi, je fais ça aussi en saga audio, puisque c'est vrai que l'audio, de par son format, a forcément vraiment modifié la posture de lecteur. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses intéressantes à noter quand on écoute une saga audio. Par exemple, le fait que, contrairement à un livre déjà, on est totalement libre de mouvement, en fait. Sauf si on est sur quelque chose de... En général, c'est plutôt avec un casque ou des écouteurs, donc on peut vraiment se balader ou faire n'importe quoi d'autre en même temps, fermer les yeux, imaginer... Et il y a plein d'auditeurs qui me racontaient que eux, ils aimaient bien, par exemple, dessiner en même temps, ou alors s'endormir avec la saga audio dans les oreilles, ou conduire, ou enfin...
Faire la vaisselle.
Il y a... Ouais.
Tricoter, pour ma part.
Mais c'est du vécu, tout ça.
C'est vraiment marrant de voir comment ça modifie justement les pratiques de lecture, et ça encourage beaucoup les gens à relire, surtout. Ça, c'est un truc assez intéressant aussi, parce que... On a tous relu plusieurs fois nos romans et sagas, enfin nos œuvres littéraires préférées, mais il y a vraiment un truc particulier avec l'audio qui fait que, ben, Reflet d'acide, on est quand même un certain nombre à les avoir tellement écoutés qu'on peut même plus compter le nombre de fois qu'on les a entendus, en fait. Et j'ai l'impression que l'audio facilite vraiment ce phénomène de la relecture, en fait, que hein, c'est quelque chose qu'on observait moins avec le format papier.
Mais dans Reflet d'acide, il y a un tel niveau de blagues, enfin, c'est tellement, ça s'enchaîne tellement vite que des fois, la relecture est nécessaire pour comprendre toutes les subtilités, en fait.
Il y a aussi beaucoup de références, et ouais, c'est vrai. Il y a aussi beaucoup de lecteurs qui m'ont dit, j'aime bien aussi, à chaque fois que je la réécoute, je découvre une nouvelle blague.
Oui.
Et, bon, c'est un peu interactif aussi, quelque part.
C'est ça. Mais en fait, elle ne se laisse pas aussi facilement apprivoiser, ses œuvres, parce que c'est le format qui veut ça, en fait.
C'est ça.
C'est que même le petit bruit de fond, il peut y avoir un détail.
Puis il y a aussi le fait que, vu que c'est audio, ça coule sans nous, en fait. Dans un livre, si t'as pas compris, tu t'arrêtes, tu reviens une page en avant. En audio, le son défile, donc si t'as pas compris, tu dois faire pause. Enfin, ça coupe. Il y a quelque chose de plus brutal, j'ai l'impression, dans le fait d'arrêter l'audio que dans le fait d'arrêter ta lecture papier.
Ouais, du coup, il y a peut-être une immersion plus importante du fait de la passivité. Parce que comme tu peux pas revenir en arrière pour donc il y a une forme de passivité sur l'écoute en elle-même, sur la lecture en elle-même.
Oui.
Par contre, du coup, il faut une plus grande immersion pour être capable de tout percevoir.
À mon avis, enfin, c'est pas l'immersion qui est exigée de la part de l'auditeur, c'est vraiment la saga audio qui favorise cette immersion. Et en tout cas, si elle y arrive pas, ça va pas être une saga audio qui va marcher, parce que l'audio, c'est un format qui pardonne pas, et si tu captes pas l'attention de ton auditeur, il t'écoute plus, il fait autre chose, et c'est fini pour toi. Donc, Reflet d'acide, pour le coup, a vraiment réussi ce pari-là, et c'est une fois que t'es dedans, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent plutôt de l'écouter, par exemple, dans le noir, les yeux fermés, enfin, vraiment de se concentrer là-dessus, parce que c'est tellement immersif que t'as juste à fermer les yeux pour voir dans ta tête tout ce qui se passe, et c'est énorme, c'est grandiose, c'est le son d'entour à 360 degrés, et t'es toi-même dans l'univers que tu te dessines, tu vois.
C'est trop joli, c'est trop beau.
Ce qui fait qu'en fait, quand ces œuvres-là sont adaptées à des formats un peu plus typiques, comme la bande dessinée, ça fonctionne moins, en fait.
C'est vrai, et l'adaptation bande dessinée a malheureusement beaucoup été décriée à cause de ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient... Que c'est pas comme ça qu'ils imaginaient les choses, évidemment, et il y en a d'autres aussi qui m'ont dit qu'ils regrettaient de l'avoir lu, parce que maintenant, à chaque fois qu'ils l'écoutent, ils voient les scènes et les personnages de la BD alors qu'ils voudraient pas.
C'est vrai. J'ai ce problème aussi.
Du coup, moi non, parce que je ne l'ai pas lu. Alors, oui, c'est mince. Pour une spécialiste de Reflet d'acide, j'ai pas lu la BD. Mais ouais, je trouve que c'est vraiment pas un format qui correspond à l'œuvre. Enfin... C'est tellement dense textuellement que la BD peut pas rendre hommage aux prouesses d'écriture de JBX, en fait.
Puis ça fait peut-être pas spécialement sens du fait que c'est inspiré des jeux de rôle, et du coup les jeux de rôle, c'est essentiellement des interactions et de l'audio, en fait. Alors peut-être que ça fonctionne pas de...
Puis le jeu de rôle, c'est tellement libre, tu peux pas le mettre dans une case, en fait.
Je suis entièrement d'accord. C'est un petit peu... En fait, c'est un peu la conclusion que j'ai presque à l'issue de ma rédaction. C'est que le jeu de rôle, c'est la seule véritable interaction qu'il y a vraiment libre, en fait. Bah, sinon, c'est plus ou moins ancré dans un engrenage. Enfin,
c'est une des pratiques artistiques les moins cadrées. Ouais. C'est ça. Et puis, ça, en fait, ton imagination est la seule limite.
C'est ça. Et c'est dommage, du coup, de ne pas les étudier, parce que...
Surtout en littérature, je trouve qu'on sous-estime vachement le potentiel littéraire d'un jeu de rôle, parce que le cadre que te donne le maître du jeu, la description qu'il te fait, c'est vraiment... C'est typiquement comme si t'avais un livre avec des pages blanches qui te donnent un cadre, et que toi, tu rentrais dedans et que tu en faisais l'histoire, tu vois.
En fait, c'est une mutation, tu vois, entre le conte, enfin, le fait d'avoir un conteur, le théâtre, et encore autre chose. Mais c'est... Ouais, t'as raison quand tu dis que ce serait totalement légitime de l'étudier. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait.
T'écris ton propre roman à chaque fois que tu fais un jeu de rôle. C'est beau.
Ouais, c'est ça.
C'est très sous-estimé, c'est vraiment dommage.
Et c'est le lecteur en plus qui est... Parce qu'il y a, les auteurs de jeux de rôle, ceux qui ont vraiment conçu voilà, les mécaniques, l'univers et tout ce que tu veux. Mais en fait, à chaque fois qu'il y a une partie, à chaque fois que des joueurs s'en saisissent, en fait, tu as une nouvelle histoire en fait, qui va se créer. C'est excellent. Okay. Mais du coup, qui est le créateur ou la créatrice? C'est les joueurs, le maître de jeu? C'est un peu tout.
Bah, c'est forcément, oui, ça résulte forcément d'une interaction, parce que sans maître de jeu, il n'y a pas de... En fait, le maître du jeu, c'est vraiment un chef d'orchestre. Tu ne peux pas t'en passer.
Sauf les jeux de rôle sans me-jeu, du coup. C'est parce qu'il y en a peu, mais il y en a.
Ah ouais?
Ouais, y a, alors
ouais, moi, je trouve que c'est un peu...
Mais je n'ai jamais entendu parler.
Alors, il y en a un qui... je suis en train de chercher son nom, qui a été écrit par Morgane Reynier, qui est très, très onirique, sur la route de Chrysopée, et qui est épistolaire.
D'accord.
Voilà. Je ne sais pas s'il peut être joué en présentiel. C'est possible.
C'est de la triche, c'est épistolaire. Hein. Le fait qu'il y ait déjà... J'imagine que tu dialogues avec quelqu'un qui a déjà des lettres...
Chacun, en fait, a... Chacun est le maître du jeu de l'autre. Ah. En fait, donc c'est un jeu qui est très intime du coup, et du coup chacun est le maître du jeu de l'autre. J'ai eu le retour d'amis qui y ont joué. Moi, j'ai pas encore joué moi-même. J'attends qu'ils aient fini leur campagne pour pouvoir le faire. Et ouais, c'est. Mais je sais qu'elle en a un deuxième que j'ai plus le titre en tête, qui se fait en présentiel et qui est pareil avec deux personnes. Sans maître de jeu, où chacun est le maître du jeu de l'autre, en fait, dans la pratique.
Mais c'est trop bien. J'ai jamais entendu parler, moi, de jeux de rôle à deux. C'est ma frustration ultime. J'ai jamais un groupe d'amis fixe avec qui jouer, donc c'est idéal.
Après, tu me diras, le jeu de rôle sur forum que tu étudies, typiquement, c'est du jeu de rôle sans maître du jeu. Hein.
Oui,
le cadre, c'est le forum, et après, tu fais ce que tu veux.
Ouais, c'est ça.
Oui, c'est la même chose. Mais c'est des jeux de rôle qui sont récents, en fait, hein, quand même.
Qui se démarquent, en fait.
Et qui se démarquent du donjon et dragon traditionnel. Ouais.
Mais en fait, c'est un peu aberrant que les personnes ne comprennent toujours pas le potentiel littéraire de ces œuvres-là, alors que typiquement, c'est des pages et des pages de règles. On ne se rend pas compte. En fait, les personnes qui ne font pas de jeux de rôle, ils voient juste... quatre personnes en cercle. Et alors qu'il y a une préparation de dingue, en fait. À chaque fois que tu veux faire un jeu, c'est pas genre oh, allez, je vais faire une sorcière, elle va être un petit peu
folle. La création de ton personnage qui prend des heures et des heures.
Fiches à remplir. Mais c'est ça. Et avant, tu dois te farcir l'univers entier au cas où tu veux faire un être d'élément feu qui soit. Non, mais c'est incroyable. Et rien que pour ça, c'est. En fait, c'est vraiment c'est un petit peu un kit. On te donne en kit un univers et après, t'en fais ce que tu veux. Mais je connais quasiment tous les gens qui me parlent de jeux de rôle me disent « Oui, alors je fais du jeu de rôle sur ça, mais c'est un petit peu à ma sauce. Enfin, on a un peu changé les règles avec mes amis. »
Je crois que j'ai jamais rencontré de joueur ou de joueuse de jeux de rôle qui ait gardé les règles exactement. C'est ça. Soit ils les ont inventés, soit on a pris ce truc de règles de ce jeu de rôle là, mais on le joue avec dans cet univers là parce que on préfère l'univers mais on préfère les règles de là-bas.
Après c'est quelque chose de tellement libre que ce serait dommage de se contraindre avec des règles qui nous plaisent pas. Hein. Enfin, moi je sais que je préfère favoriser les règles de roleplay plutôt que les lancers de dés par exemple. C'est plus amusant.
Mais en même temps le hasard est pas mal non plus. Enfin.
Oui, non mais oui, non mais faut lancer quelques dés, c'est sûr. Mais enfin,
moi je vois c'est sur les parties des Mousquetaires de Londres qui est du Men in Black avec des mousquetaires, ce qui est cool. Et du coup, la mécanique de base c'était avec la main gauche tu tires les jets de défense et la main droite les jets d'attaque pendant les combats, je crois, me souviens de ça. Et nous, on a commencé une campagne, mais on avait plusieurs de complètement nouveaux joueurs de jeux de rôle qui voulaient découvrir. Et déjà, même moi qui avais déjà l'habitude, j'y arrivais pas.
Ah oui.
Et en fait, on a fini par notre jeu, il a fini par choisir une autre mécanique de jeu qui venait d'un autre type de jeu, justement, qui est beaucoup plus basé sur la narration, avec des logiques de... si ça paraît logique que ce soit dans l'univers, eh ben on va pas tirer un jet de dé pour savoir s'il y a un chandelier sur la table alors que vous êtes dans le noir. Oui, il y aura un chandelier, oui, il sera allumé. Donc, à partir du moment où c'est logique, et c'est vrai que c'est génial parce qu'on est beaucoup plus justement dans la partie créativité de pouvoir inventer l'histoire et en fait de la vivre au long de la partie, quoi.
C'est ça. C'est tellement au cas par cas, c'est tellement humain que tu peux pas rester bloqué en fait dans un jeu, t'as forcément une solution qui sera apportée par les autres joueurs. Et en plus, ce que je trouve vraiment trop bien, c'est que tu peux pas t'attendre à ce... tu t'attends pas à ce que les autres joueurs vont faire en fait. Des fois, notre magnifique monteuse qui est en régie me racontait que quand elle avait joué, elle avait fait du jeu de rôle. Elle avait, en gros, elle était avec des gens qui jouaient très sérieusement et ils étaient dans une situation un peu chaotique. Et c'était à elle, par un hasard fortuit, de prendre la décision pour tout le groupe. Et au lieu de combattre le dragon, ils sont allés cueillir des fleurs. Donc, totalement.
Je suis d'accord, on ne tue pas les dragons. Les dragons, c'est mignon.
J'avais aussi passé une partie de jeu de rôle comme ça à la taverne en ayant envoyé le personnage le plus cheaté de notre équipe faire la quête tout seul pendant qu'on se saoulait la gueule à la taverne.
Oh, c'est bien ça. Nous, on a eu l'inverse où on était censé jouer des enfants en fait, et l'idée c'était de prendre une partie pour jouer l'enfance globalement, qu'est-ce qui s'est passé, et les reprendre quand ils ont 10-11 ans, histoire d'avoir des personnages plus pas plus intéressants, mais d'avoir plus de possibles à faire, parce que quand tu joues un personnage qui a 4 ans, t'as pas grand chose à faire. Ouais. C'était les plans de même jeu. Et finalement, dans cette partie-là, on s'est retrouvés, mais parce que ça nous a fait marrer, elle nous racontait juste des petits éléments, des anecdotes qui s'étaient passées dans l'enfance, pourquoi les interactions les uns avec les autres. Et en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, on est parti en live. Et du coup, depuis, en fait, on joue tous les personnages qui ont 5-6 ans. Et elle a complètement abandonné de nous faire un truc en accéléré pour quand on sera plus grand. Et en fait, on se retrouve à jouer toutes les scénettes sur lesquelles on était censé passer rapidement, de toutes les petites conneries ou les choses qu'inventent les gamins. Donc, dans un monde, en plus, où il y a des elfes et des barbares, et où c'est la bataille et la guerre. Donc, mais et du coup, ça nous aide aussi à s'approprier les personnages. Il y a ça aussi, c'est oui. Que dans tout ce qui est littéraire, on a le fait de se sentir proche des personnages, de de s'identifier aux personnages et tout ça. Et là, dans le jeu de rôle, on peut vraiment incarner, on peut vraiment être proche des personnages parce qu'il y en a certains qu'on joue vraiment.
On est le héros.
C'est ouais. Ça. C'est nos amis, en fait. Et dans un questionnaire que j'avais fait passer, justement, j'avais posé une petite question un peu intime en disant « Est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux d'un personnage d'un personnage, quoi ?» Il y a tellement de gens. Et mais moi, tout le monde. Enfin, je ne vais pas reparler de Zevran dans Dragon Age parce qu'on en a déjà parlé. Hein, mais en tout cas, je pense que toute personne qui s'implique un minimum dans un univers... que ce soit dans la littérature ou même dans les jeux vidéo, finira forcément par connaître cette malédiction terrible.
Mon premier crush, c'était le héros de Final Fantasy IX. Et je devais avoir 8 ans. C'est dur.
C'est lequel déjà dans
Final Fantasy? Jiden.
Ah oui. Oh, d'habitude, c'est pas celui-là que les gens citent.
Bah, pourquoi pas?
Et pourquoi pas?
Bah. Il est trop chou avec son style victorieux et tout. Bref.
Je suis en train de chercher, du coup, moi, mon premier crush fictionnel. J'arrive pas à l'identifier.
Liliana en régie me dit Sonic. C'est un peu honteux.
Bah, justement, j'étais en train de me demander si il y a un crush, mais j'adorais Spyro le dragon, mais pas que parce que c'est un dragon déjà. Mais
zoophile.
Je le trouvais drôle en fait. Je le trouvais, il était hyper insolent. Hein.
Dragon.
Bah, c'est un dragon, c'est une qualité supplémentaire.
Certes, oui, je suis d'accord.
Et je le trouvais drôle et je le trouvais génial. Donc, je ne sais pas si on peut parler de crush amoureux, parce que j'étais petite, mais il y avait un vrai crush sentimental, amical, peu importe.
Tu penses toujours dans ton cœur.
Oui, encore maintenant.
Moi, c'était totalement amoureux, j'assume, j'étais figurine et tout. C'est magnifique.
On ne coupe pas ça.
Et toi, du coup? Au niveau de ton corpus, donc ton corpus c'est une œuvre, est-ce que tu as des éléments d'analyse de la discipline littéraire que tu peux appliquer à ta recherche?
Absolument. Bah, comme je te le disais, comme je le disais tout à l'heure, il y avait déjà les théories de la réception dont j'ai un peu parlé. Après, dernièrement, je me suis surtout intéressée à la narratologie, donc celle qui a été établie par notre Saint-Père Jeunette. Et du coup, pour m'intéresser en fait à la figure du narrateur dans Reflet d'acide, qui est quand même un cas assez particulier, puisque en fait, c'est un narrateur qui est assez multifonction. En fait, il fait appel aux techniques spécifiques de différents médias et de pratiques artistiques. Donc, par exemple, le roman, le cinéma, la poésie, le jeu de rôle, le jeu vidéo. Et en fait, il mixe un peu toutes ces pratiques-là pour créer une narration qui va vraiment être hyper originelle. Et c'est assez intéressant de découvrir qu'en fait, malgré cet aspect assez novateur, c'est une figure qui répond parfaitement aux fonctions qui ont été établies par Jeunette. Donc, les fonctions narratives, les fonctions de régie, fonctions testimoniales, etc. En fait, JBX va... il invente rien de nouveau, en fait. Il se réapproprie ses codes de la littérature dite savante pour en faire quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui ratent cet aspect-là de l'œuvre. Et souvent, d'ailleurs, on préfère les ignorer parce que c'est considéré comme populaire et que, en fait, ça ne sert pas à ça, tout simplement.
Oui, on en revient à ce qu'on disait tout au début où, voilà, c'est pas de la littérature blanche. Donc, c'est pas de la littérature.
Mais déjà, le simple fait que tu parles de littérature blanche, tu parles, enfin, on pourrait revenir au fait que tout ce qui est science-fiction et fantasy a déjà du mal à rentrer en université. Donc finalement, c'est normal qu'on se batte contre des moulins.
Rien que la fantasy, alors que là, clairement, c'est un putain de livre. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Mais non.
C'est établi en plus le genre.
À un moment, on parlait quand même de paralittérature. Oui. Hein. Para, ça veut dire à côté.
Oui.
Genre, tout à fait.
Qui a inventé ça? C'est complètement aberrant, alors que c'est simplement parce que ça a été un des genres les plus populaires, et particulièrement parmi la jeunesse, que ça a été presque dégradé et que c'était pas forcément bien vu d'en faire un sujet de recherche, quoi.
Et c'est en plus, on comprend pas trop pourquoi l'avoir mis du côté de la jeunesse et l'avoir...
Ça, je pense que c'est juste une analyse de public, c'est les jeunes qui lisent essentiellement les littératures de l'imaginaire.
Il y a les deux côtés, parce que dans le civil, je suis bibliothécaire, donc je vois comment on peut classer, et il y a quand même un reflet, plus maintenant, je dirais que depuis 10-15 ans, dans les bibliothèques, dans l'essentiel des bibliothèques, on évite de plus en plus... de sectoriser les littératures de l'imaginaire. Mais je pense sincèrement que c'était le reflet d'un gros mépris même des bibliothécaires. Involontaire, mais on les a aussi dans les formations. C'est la bonne littérature. On apprend aussi à faire des catégories de lecteurs. Et donc, ça n'a pas l'air très sérieux. Donc, ça va être pour les gamins. Et souvent, on part aussi du principe que si c'est pour les enfants, c'est nul. Donc, ce qui est un peu con, parce que normalement, si c'est pour les enfants, c'est censé être encore mieux. On est censé faire encore plus attention. Si c'est pour des enfants, c'est des êtres en formation. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais ouais, il y a quand même eu historiquement un reflet d'un peu de mépris, mais même de la littérature. Ce que je trouve fou, c'est que la littérature qu'on peut dire classique aujourd'hui, c'est une littérature qui s'est confrontée à énormément de mépris. Au 19e, le roman n'est pas du tout une forme littéraire acceptable. C'est, les femmes, elles sont bonnes à lire des romans dans leur coin. Si les femmes en lisent, c'est dire si c'est pas top. Donc, et aujourd'hui, c'est ces mêmes œuvres littéraires qui étaient méprisées il y a... qui sont encensées, quoi.
Et dans un sens, on n'arrête pas de reparler de tout ce qui est mythologie, alors que dans ce cas-là, ça fait encore moins de sens ce qui se passe dans la mythologie que ce qui se passe dans la fantasy. Vraiment, on pourrait en faire tout un podcast.
La mythologie grecque, c'est Game of Thrones, quoi. Ni plus ni moins, je veux dire.
Voilà, super.
Et du coup, toi, c'est par le biais de Reflet d'acide que ça t'est venu de vouloir le passer au crible de l'analyse littéraire, ou c'est d'autres œuvres qui t'ont donné envie de ce sujet-là? C'est parti de quoi?
C'est vraiment parti de Reflet d'acide pour le coup. En fait, j'ai commencé par Noël Buck, que je devais être au collège, 12-13 ans. Et je me suis mise à Reflet d'acide quelques années plus tard. Et ça a vraiment, enfin, ça a été une révélation. En fait, c'était vraiment pour moi mille fois mieux que Nalbuk, même si Nalbuk a une place spéciale dans mon cœur aussi. Enfin, j'ai été vraiment émerveillée par la richesse de l'œuvre, et puis je me lassais pas de la réécouter. Au lycée, je me rappelle m'être fait la réflexion que si un jour je poussais jusqu'au mémoire, jusqu'au master, je ferais un mémoire sur Reflet d'acide
pour faire
voir au monde entier que. À quel point c'était une œuvre riche et complexe et qu'on sous-estimait fortement. Et voilà, c'est un peu un. C'est pour ça que c'est. D'ailleurs, je le fais. Hein, je fais ce mémoire en 3 ans parce que déjà j'ai le temps et surtout je veux prendre le temps parce que c'est mon bébé ce mémoire. En fait, j'ai vraiment quelque chose à prouver avec et c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. En fait, c'est une œuvre qui a marqué ma vie de littéraire.
Mais c'est marrant parce que moi, c'est pareil. Une des œuvres sur laquelle je m'étends le plus, en fait, c'est quelque chose aussi que j'ai découvert quand j'avais 13-14 ans et auquel je repensais de temps en temps. Et dans ma vie universitaire, souvent, dans les copies, je finissais toujours par caser cette petite référence qui ne parlait à personne, évidemment, parce que les professeurs n'étaient pas du tout au fait de ce qui était littérature numérique, encore plus en histoire de l'art. Moi, je n'étais pas forcément dans le sujet. Mais finalement, quand j'ai commencé à rédiger mon mémoire, et puis au sein de mon autre master, je commençais à réfléchir à un projet numérique en lien avec mon mémoire, et ça m'est arrivé d'un seul coup de me dire, mais oui, c'est une révélation divine, évidemment. Mais oui, évidemment, il fallait que je base tout dessus.
Puis le côté passionnel d'avoir quelque chose à prouver, enfin une cause à défendre.
C'est vrai.
Mais dans notre promotion cette année, on a pas mal d'étudiants qui ont des mémoires passion, on va dire, qui ont des choses à revendiquer. On en a une, par exemple, qui fait son mémoire sur le lien entre la littérature et le métal. Il y en a un entre le rap et la littérature. On en a une qui fait ça aussi sur la fantasy, sur la filiation entre Le Seigneur des Anneaux et Game of Thrones. Enfin, c'est hyper. Il y a de plus en plus d'ouverture de la part de l'université sur ces objets-là hybrides. Mmh. Et c'est vraiment un plus pour le coup.
Mais ça, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui s'installe dans votre master littérature générale et comparée à l'université de Rennes 2. Du coup, je le répète à nouveau. Parce que vous n'êtes pas les seuls étudiantes de ce master que je connais. Il y en a qui en sont sorties depuis peut-être 2-3 ans et ont eu ce même retour, en fait, ce sentiment d'être réellement encadrées, d'être écoutées et du coup se sentir légitimes dans leur recherche en tant qu'étudiants, au moins avec les enseignants directs qu'ils ont et les directeurs de recherche, qui est quand même déjà...
Une chance.
Oui. Mais est-ce que ce problème, cet élément de légitimité, vous le ressentez vraiment dans le master, ou c'est quelques enseignants, ou certains étudiants de votre promotion, où vous avez quand même besoin de faire vos preuves, de faire d'autant plus appel aux grands théoriciens pour appuyer votre recherche?
On a la chance d'avoir des profs de littérature qui sont assez ouverts d'esprit quand même. Globalement, personne à Rennes 2 ne va te reprocher d'avoir choisi un sujet assez risqué, on va dire. Après, moi, personnellement, sans ressentir de blocage, j'ai quand même eu besoin de vendre mon sujet, en fait. De montrer, avant même de me lancer dans mon mémoire, tout le potentiel qu'il y avait là.
Personnellement, j'ai jamais ressenti d'animosité. J'ai jamais ressenti d'animosité, en fait, par rapport à mes recherches. Juste peut-être des fois un moment d'adaptation, parce que les choses qu'on étudie, en fait, dans le numérique, et les choses qu'on étudie sur une œuvre papier plus classique, c'est pas du tout les mêmes choses. Et il y a sur de nombreux aspects, pour mes recherches, c'est presque plus sociologique que littéraire.
Ah, moi aussi.
Oui. Donc, finalement...
Et parce qu'on est du côté de la réception aussi, et qu'on accorde une place importante à nos lecteurs, et que de fait, on est obligé d'avoir une approche sociologique pour bien prendre en compte ces aspects-là. Enfin, juste une chose, la sociologie a une approche de tout ce qui est populaire, qui est beaucoup moins méprisante que la littérature et les arts en général, parce que, en fait, ils sont factuels, et ce qui est populaire, c'est ce qui est produit ou apprécié par le plus grand nombre, et c'est tout, en fait, ça veut rien dire d'autre. Et du coup, la sociologie est plus neutre, et c'est quand même plus intéressant d'aborder ces aspects-là de son point de vue.
C'est ça. Mais en fait, peut-être que d'un côté, je ne me suis pas spécialement heurtée à... Enfin, tu as, peut-être toi aussi, tu l'as ressenti comme ça, mais malgré qu'il y ait des personnes qui soient vraiment hermétiques à ce genre d'œuvre et à ce genre de sujet et d'approche, il y a quand même beaucoup de gens qui vivent ça comme une, quelque chose de jubilatoire, dire « oui, Reflet d'acide » ou « oui, les jeux vidéo, ah oh, oui, j'adore ce jeu » et ça fait vraiment plaisir de rencontrer des personnes qui disent « oui, je veux lire ton mémoire ». C'est très motivant de se dire « bon, bah, d'un côté, je vais devoir presque inventer une nouvelle approche de l'étude, mais en même temps, je vais avoir beaucoup de personnes qui vont être derrière moi et qui sont intéressées, donc je ne fais pas ça dans le vent.
» Oui, moi, j'ai fait passer une... Comme toi, d'ailleurs, j'ai fait passer une enquête de réception parmi les auditeurs de Reflet d'acide, qui a eu la chance d'être partagée par l'auteur lui-même, ce qui fait que, du coup, je suis montée à 5000 réponses au lieu de 500. Si j'avais su, j'aurais pas fait tant de questions ouvertes. Mais, et du coup, j'avais beaucoup de gens... de fait, j'ai eu beaucoup de retours de gens qui m'encourageaient, qui me disaient « Mais c'est génial qu'il y ait des gens comme toi pour promouvoir ce genre d'objet. Enfin, c'est super, bon courage, machin. » Et tout, et à côté de ça, il y avait quand même des gens pour me dire, mais enfin, c'est pas la littérature, pourquoi tu fais ça? Alors que c'est des fans de Reflet d'acide qui sont venus me dire, qu'est-ce que ça fout là? T'es meuf, tu fais un mémoire de littérature et tu parles de Reflet d'acide, c'est quoi ton problème? ça m'a vraiment fait de la peine pour le coup, et en même temps, du coup, ça reste motivant, comme tu disais, parce que ça me donne encore plus envie de prouver à ces gens qui savent de quoi je parle que ils ont complètement fermé les yeux sur ces aspects-là.
Ça me motive un petit peu aussi de me dire que si on fait connaître ces œuvres un maximum dans le monde universitaire et même autour de nous, on va faire petit à petit évoluer en fait notre vision de ce qu'est la fiction, ce qu'est la littérature, et les formes hybrides vont se multiplier. Enfin, je sais pas, mais par exemple, j'ai étudié ça un petit peu quand j'étais au début de mon mémoire, tout ce qui est littérature hypertextuelle. Il n'y a que dans le milieu universitaire que ça a été utilisé.
Qu'est-ce que la littérature hypertextuelle ? Il y a beaucoup de textes ?
Non, en fait, c'est des littératures qui sont qui se basent sur l'informatique, donc l'hypertexte. En gros, on va avoir un gros bloc de texte et typiquement, tu vas avoir certains morceaux de texte qui vont être surlignés où tu vas pouvoir cliquer et ça va te donner accès à un autre passage. Et c'est très drôle, hein. il y en a certaines, il y en a une que j'aime, c'est Luminous Airplanes de Paul Lafarge, et c'est assez marrant parce que en fait le narrateur il fait que de digresser. Par exemple, il va vous parler de quelqu'un de sa famille, il va y avoir un lien, t'es pas forcément, enfin tu peux ne pas cliquer, tu peux ne pas avoir connaissance de tous les détails et tout, parce que en fait c'est un petit peu comme dans House of Leaves,
plus c'est Jacques le fataliste. L'histoire n'avance jamais.
C'est qu'en fait, voilà, tu vas cliquer sur un lien hypertexte et dans le lien, enfin dans l'autre bloc de texte, tu auras un autre lien et en fait, tu vas jamais lire cette histoire, tu vas lire tout ce qu'on considérerait comme des annexes. Et en fait, l'annexe a un intérêt particulier parce que, comme dans House of Leaves, en fait, il y a un moment où le rédacteur en note de bas de page il dit si vous voulez avoir un accès je commence à connaître par cœur cette œuvre, c'est horrible, mais dit si vous voulez avoir un accès plus intime au psyché en fait de ce personnage, consultez les annexes contenant les notes, enfin les lettres que lui a envoyé sa mère, sinon si vous voulez vous faire votre propre opinion, ne lisez pas. Et c'est super drôle parce que j'ai effectivement lu, parce que moi je cherche à fond tout le temps, et en fait je voyais pas du tout le personnage comme ça, et tu te rends compte que tous les moments un peu psychotiques de ce personnage, ils sont dus au fait qu'il a eu un passé compliqué avec une mère elle-même avec ce genre de symptômes, et t'as une approche en fait, ce qui est marrant avec House of Leaves, c'est que c'est l'histoire de quelqu'un qui trouve un bloc de texte écrit par quelqu'un qui commente un documentaire qui a été retrouvé de manière un peu étrange, et on a la même fonction que le personnage qui découvre, parce que nous-mêmes, on découvre et on n'est pas forcément obligé de tout relire. Et c'est comme si on était inclus dans le texte. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que même dans la traduction, le traducteur est cité un petit peu comme un des personnages au début. Enfin, c'est écrit. Je ne sais plus comment ils ont marqué ça au début. Mais c'est marrant parce que ça donne l'impression que le traducteur fait partie de la réalité des personnages et des différents narrateurs.
Je voulais revenir là sur la littérature hypertexte,
ouais.
Sur le fait que tu peux la lire de manière linéaire ou cliquer sur les liens, aller explorer un peu plus loin. Mais franchement, elle est où la différence avec le jeu vidéo où tu choisis ou non d'aller faire la petite mini-quête, tu choisis ou non d'aller lire tous les bouquins qu'il peut y avoir dans Dragon Age sur le truc, le culte de la lumière. Non, je ne sais plus ce que c'est d'ailleurs, mais voilà, il y a aussi de l'hypertexte du coup oui. Dans le jeu vidéo.
Puis il a ce goût de l'annexe aussi, le jeu vidéo. Oui, il aime bien avoir plein de petits documents
ouais, c'est vrai. Lire à côté.
Mmh. Ouais, c'est ça, de l'annexe, effectivement aussi.
Mais c'est aussi, dans tous ces... On retrouve toujours ces petites annexes des livres dans le jeu à lire. Toujours dans des jeux de rôle, au final. C'est comme si tu jouais tellement... Enfin, ton personnage, il peut pas être simplement un espèce... Il n'est pas obligatoirement un bourrin assoiffé de sang qui ne sait pas lire et qui va faire que des quêtes, quête sur quête. Alors, tu peux très bien te poser et lire. Et toutes ces œuvres qui sont dans le jeu, elles ont vraiment un intérêt pour comprendre le jeu et pour comprendre l'univers du jeu. Mais oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Il y a une espèce de filiation avec le récit hypertextuel. Mais le récit hypertextuel est venu... Plutôt.
Oui, ça, c'est pas du tout les mêmes conditions techniques, voilà. On va dire. Enfin, le jeu vidéo, t'as quand même toute une armée de programmeurs derrière, alors que c'est quand même plus simple de faire en sorte qu'un lien t'envoie vers une autre page, quoi.
C'est vrai. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeux vidéo indépendants, où c'est justement, il y a un développeur... il me semble que Undertale fait partie de ton... Non, je ne sais plus.
Encore, parce que je n'ai pas encore joué à Undertale, c'est ça, compte. Je compte y jouer.
On en avait parlé hors micro, c'est pour ça que je le cite.
Parce qu'en fait, ce qui est marrant en plus avec ces annexes dans les jeux vidéo, tous ces livres qu'on peut lire dans Dragon Age ou dans. C'est dans un Elder Scroll, je ne sais plus si c'est Oblivion. Mais il y a des espèces de.
Mais tous les RPG.
Oui, mais pour l'exemple que je vais donner, ça en est un précis où les développeurs se sont tapés un délire en fait, où ils ont fait un espèce de. Un brisement du quatrième mur. Au sein même d'un livre, donc il fallait lire toute une série de livres où en fait les historiens du jeu en fait, c'est-à-dire les personnes qui étudiaient le pays en question, ils disaient oui alors c'est étrange parce qu'il y a un événement qui s'est passé à tel moment mais personne n'en a la même version, il y en a qui disent que ça s'est passé comme ça et d'autres que le héros est arrivé à ce moment-là et en fait il y en a beaucoup qui ont joué à ça et qui ont lu ces parties et ils se sont dit mais attends, en fait ça parle totalement des diverses parties qu'on joue en tant que joueur. Le fameux... Parce qu'il disait, oui, alors le dragon, il a été tué par telle personne, tel jour. Mais en fait, c'est totalement toi qui joues dans des parties différentes et toi qui meurs dans un endroit, ça te convient pas. Alors tu reviens sur une sauvegarde précédente. Et ça fait partie de la diégèse du jeu.
C'est méta.
C'est trop méta. Mais alors ça... Quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça exceptionnel.
C'est un peu ce que fait Doki Doki avec la light novel aussi, du coup, je trouve. Un peu le côté, tu commences avec une light novel, tout ce qu'il y a de plus classique, et puis d'un coup, paf, tu ne t'attendais pas à ça, mais d'un coup...
Ouais, Doki Doki Literature Club, le traumatisme pour toute ma part. Une génération. Oh mon Dieu, surtout que moi, quand j'y ai joué, je ne savais pas du tout ce que c'était. On me l'a installé et on m'a dit, tu joues. Et du coup, j'avais pas eu le teasing ou quoi que ce soit sans contexte. Quoi. Je me suis dit,
c'est comme ça qu'on vit le mieux.
Le traumatisme, oui. Oui, oui.
Non, mais
en
vrai, ça te met face à tes pratiques de lecture et tu sais, c'est hyper.
Ah, mais moi, ça m'a terrorisée parce que je me suis dit, putain, c'est mon choix qu'a provoqué le truc. Non, vraiment, j'étais là, non, mais j'ai voulu être honnête, je pouvais pas mentir, parce que mon personnage, c'est pas logique, mon personnage, il peut pas être amoureux, je peux pas être... ça m'a pris la tête, puis après, quand t'avances dans le jeu, je fais, d'accord, ok, c'est bon, c'est fucké, quoi, de toute façon.
En fait, on en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au jeu BioWare, en fait, l'implication qui fait que le joueur est le héros de l'histoire, elle est complètement différente de le joueur et le partenaire du héros, c'est-à-dire que quand tu lis un livre, tu es à côté de Julien Sorel voilà, et tu te dis bon, il a fait ça, c'est pas cool, il a fait ça, c'est cool. Tu vas être de son avis ou tu vas être contre lui, tu t'identifies ou pas, mais ça c'est autre chose. Quand c'est toi qui fais les choix,
t'es responsable de tout.
T'as une épée de Damoclès quoi, c'est tu C'est toi le responsable de tout ce qui se passe, même si finalement c'est qu'une arnaque de développeur de te faire croire, alors que c'est tout est orienté pour même si on a une multitude de fins différentes, ces fins elles ont quand même été écrites, elles sont pas inventées au cas par cas. Et
pas encore, peut-être que l'IA l'intelligence artificielle apportera ça aussi au jeu, hein.
C'est vrai.
Après, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs qui... Enfin, sur leur partie principale, en tout cas... c'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs qui, sur leur partie principale, en tout cas, préfèrent jouer selon leur code moraux à eux, tu sais. Parce que, justement, le naturel revient tellement, en fait, ils sont tellement investis dans l'histoire que c'est leurs réflexes qui finissent par prendre le dessus, je trouve. Enfin, moi, j'ai souvent cette impression-là quand je fais un jeu, un RPG. Après, j'aime bien avoir une autre partie où je joue tel ou tel... stéréotype, hein, genre le gros bourrin de base, ou voilà, mais je joue sur ma partie principale, mon naturel revient tellement vite que même si j'essaie de faire quelqu'un d'autre que moi, je finis toujours par revenir à mes principes moraux à moi, et voilà. Je tue pas les petits oiseaux, ni les coqs, ni les poules.
Je crois que tu peux pas t'en empêcher d'un côté, parce que moi c'est pareil, quand je jouais mon bourrin dans Dragon Age, j'avais un moment un orphelin qui venait, qui faisait « Tu as pas vu ma maman, elle m'a dit qu'elle me rejoindrait là !» Et moi... J'étais « Oh, le beau bébé !» Et mon personnage, il lui avait clairement dit « Bah, dégage !» Et quand il est parti en pleurant, j'ai fait « Pourquoi j'ai fait ça ?» Alors que clairement, c'est pas moi qui ai fait cette action. Et d'ailleurs, ce personnage, c'est juste une ligne de code quand il pense. Mais ça te brise vraiment intérieurement.
J'avais eu l'occasion d'interroger dans Ludologie justement des chercheurs qui avaient pu un peu analyser les joueurs et tout ça. Et il y a vraiment les deux pratiques, parce que tu peux avoir les personnes qui vont vraiment rester avec les choix moraux, les choses qui leur correspondent mieux, qui est logique et tout ça. Et puis t'as ceux qui ont besoin de tester toutes les limites, qui vont vraiment faire le plus bourrin possible, le plus que tu veux.
Je pense que les deux sont pas incompatibles. Hein. Et comme tu peux je te disais, aussi moi, avoir je fais plutôt ça sur ma partie principale. Et après, j'aime bien jouer sur les excès. Mais de base, je préfère vivre l'histoire au début, quand je la découvre, en étant moi, en fait.
Ouais. Ah, mais moi, pareil, c'est ça. Je suis beaucoup plus... j'ai beaucoup de mal à troller dans le jeu, en fait. Il y a quelques jeux où j'ai pu le faire, mais globalement, je reste très roleplay, quoi. Mal. Je sais pas, peut-être que j'ai été traumatisée par ces films des années 90 où en fait tu te rends compte que le jeu vidéo te permettait de te tester pour devenir pilote de... C'était quoi ce film ? Où tu avais un jeu d'arcade qui permettait de détecter le futur pilote de je ne sais plus quoi, de extraterrestre. Non mais c'est là du... Ah, je ne sais plus ce que c'était. Et ça m'a beaucoup marqué. Et c'est, je me suis toujours dit, et si quelqu'un voyait ma partie. Et tu sais, quand je troll dans un jeu, j'ai toujours une petite voix qui dit, qu'est-ce qu'ils penseraient de toi, les gens, s'ils voyaient ta partie. Je suis toute seule sur mon ordinateur, il est pas branché, tout ce que tu veux. Mais je suis quand même une petite voix qui dit, qu'est-ce qui se passerait.
Quelle horreur. Ben, en fait, c'est juste qu'il y a pas mal de jeux aussi qui jouent un peu sur la honte que tu peux ressentir par rapport à ce que tu fais, où t'as pas mal de jeux, surtout des jeux d'horreur qui vont te laisser entendre en fait qu'on te regarde toi et on sait ce que tu fais en fait.
Et sur... Brother is
waiting. Ouais, non mais c'est ça. Et je trouve ça super intéressant parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire presque exclusivement dans le multimédia en fait. Parce que par exemple, une œuvre que j'aime énormément, qui m'a vraiment marquée, c'est l'œuvre qui m'a appris en fait que la fiction, ça pouvait être simplement un espace où la réalité et la fiction, il y a plus vraiment coexistent et il y a plus vraiment de frontières. En fait, c'était une œuvre qui avait été postée de base. En plus, c'est là où c'était complexe, c'est que la personne qui a écrit cette fiction, la première fois qu'il a posté ça, il avait posté ça sur un forum. Et en disant, j'ai un problème, j'ai une cartouche de jeu Zelda, mais elle est hantée, il fait des choses bizarres, etc. Est-ce que vous pourriez regarder ? Et les gens regardaient et ils disaient, essaye de faire ça. Et en fait, en fonction de ce que les gens lui répondaient, il repostait, j'ai fait ça, regardez ce que ça a donné. Mais en vérité, le mec qui faisait ça, c'est lui qui faisait tous ses montages, c'est lui qui faisait tout ça.
C'est méta.
C'est complètement méta, j'adore.
Il y a eu le même phénomène avec Troisième Droite de François Descraques, je sais pas si tu connais, mais qui a un peu lancé le feuilleton Twitter, tu sais. Et qu'au début, beaucoup de gens avaient cru que son compte, en fait, c'était une vraie personne qui racontait les trucs hyper chelous qui lui arrivaient dans son nouvel appartement et qui avait commencé à paniquer. Après, il avait officialisé la fiction. C'est un peu dommage d'ailleurs, je trouve, mais les gens avaient continué de s'immerger dans l'histoire comme si c'était réel et à lui envoyer des suggestions, des conseils. C'était hyper interactif aussi.
Bah, pour toutes les personnes qui sont intéressées par tout ce qui est un peu méta et où tu as l'impression de vraiment faire partie d'une fiction, je vous conseille de vous pencher sur ce qui est Alternate Reality Games, donc ARG. Ça en fait partie, ce dont je parlais, c'est l'histoire dont je parlais qui est basée sur Majora's Mask, s'appelle Jadusable Majora's Mask Haunted Cartridge. Alors, excusez pour l'accent, hein, mais vous chercherez Jadusable, c'est bon, vous trouverez tous les liens qu'il faut. Et ce que je trouvais, enfin, moi, quand j'avais 13 ans, j'étais très naïve, je connaissais pas les creepypastas, je savais pas vraiment ce que c'était. Et quand j'ai lu ce truc, ça m'a tellement fait peur, parce que j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un... Parce que je crois beaucoup à tout ce qui est surnaturel. Et ce mec qui disait qu'il était complètement terrorisé et qui était hanté par... un mec dans une cartouche qui lui envoyait des messages un peu bizarres, qui prenait possession de son ordinateur. Il y avait une histoire avec une secte qui faisait passer les âmes dans les machines. Enfin, c'était vraiment ouf. Et le créateur, en fait, il a utilisé... C'est vraiment un coup de génie. Pour rendre ça encore plus interactif, il avait mentionné qu'il était allé sur Cleverbot et qu'il avait discuté avec l'entité maléfique via Cleverbot. Et ce qui est super intéressant, c'est que Cleverbot, en fait, c'est un petit logiciel sur Internet où il y a des gens qui tapent des... Enfin, qui vont écrire des choses. Et en fait, la machine va garder en mémoire tout ce qu'on lui a dit. Et quand t'as un enchaînement de phrases qui reviennent souvent, elle va le garder en mémoire et elle va te le ressortir. Et il est parti... il a demandé, en gros, à la machine, par exemple, de demander à cette entité maléfique qu'est-ce qui lui est arrivé. What happened to Ben? Et la machine répondait « Ben droned ». Et donc, en fait, quand les lecteurs allaient tester eux-mêmes, ça leur disait toujours ça. Même maintenant, j'ai retesté. Hein. Tu demandes à Cleverbot « What happened to Ben ?» On va te dire qu'il s'est noyé. Et genre, je te jure que rien que d'y penser, j'ai encore des frissons parce que c'était vraiment la première fois que je me disais « Non, mais en fait, c'est vrai ce qu'il disait. C'est vrai, alors que c'est juste de la manipulation, mais c'est un coup de génie. » Et voilà, c'est ça l'œuvre qui m'a complètement... fait exploser le cerveau et qui fait que maintenant je suis encore là à en discuter.
Ouais, en faisant des recherches sur les antécédents de la saga audio, j'étais aussi tombée sur un cas, une fiction radiophonique qui devait être diffusée dans les années 80 ou 90, et c'était une adaptation de La Guerre des Mondes, et donc en fiction radiophonique, et en fait ceux qui n'étaient pas au courant ceux qui n'entendaient pas la présentation, donc ceux qui annonçaient la reprise de La Guerre des Mondes de Wells, bah, il y avait vraiment eu une vague de panique sur les ondes, en fait, parce que les gens avaient entendu la fiction en beau milieu d'un épisode, et du coup, ils avaient été pris de panique en pensant que c'était vraiment la guerre et la fin du monde, et il avait commencé à avoir une espèce de mini-exode. Bon, ça a été arrêté assez rapidement, mais il y avait vraiment eu une vague de panique à cause de cette fiction, c'était assez rigolo.
Bah, pour mettre au contexte, en même temps, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, quand il se passait quelque chose sur la radio, tu ne pouvais pas vérifier dans le journal parce qu'il fallait attendre le lendemain. Et tu avais juste contact avec tes proches. Donc,
Et c'était la radio, en fait, qui était ton réseau social de source d'information. Donc, si la radio te met à te dire il y a des extraterrestres qui débarquent, fuyez, pauvre fou. Et bah, tu fuis.
C'est ça.
Mais ouais, du coup, pour en revenir aux jeux vidéo, je trouve que c'est un peu une revanche sur la littérature classique, tu sais, genre le fait de pouvoir recommencer autant de fois que tu veux et d'explorer des fins alternatives par rapport aux romans dont t'as pas aimé la fin ou dont tu vois pas la fin, tu sais, celles qui sont un peu en fin ouverte. Le jeu vidéo, il te permet vraiment d'explorer tout ce que tu peux pas explorer dans le roman, genre de prendre telle décision à ton personnage plutôt que celle que t'as pas aimée dans le roman, tu vois, genre tu peux vraiment modifier les choix, creuser les parties qui t'intéressent vraiment, choisir la fin qui te plaît le plus, c'est un peu, ouais, une revanche.
Du coup, on a tourné autour de la question, là, depuis un petit moment, sur en quoi on peut raccrocher vos corpus de recherche d'œuvres littéraires, comment ça peut être des objets de littérature. Du coup, moi, j'aurais une question, c'est sur le négatif. On peut définir quelque chose parce que c'est, mais c'est aussi, on peut le définir parce que ça n'est pas. Et en quoi vos œuvres ne seraient pas du tout, du coup, de la littérature ?
Bah, moi, déjà, le premier point qui saute aux yeux, c'est le format audio, évidemment. On a plus l'habitude de lire, enfin, dans l'esprit de... du...
Quidam moyen.
C'est ça. Dans l'esprit du quidam moyen, la littérature, c'est du papier. C'est quelque chose que tu lis avec tes yeux. Donc, de fait, entendre, ça t'aide pas à associer ça à un travail littéraire. Après, y a évidemment tout le travail d'acting, le travail vocal pour le coup, puisque évidemment il n'y a pas d'image. Donc tout le travail qui est fait sur les voix, sur le jeu, tout ça, la prosodie. Et puis ensuite, tout ce qui va être montage et mixage, donc le même travail technique qui est fait pour le cinéma, pour rendre le son lisible et clair. Et voilà. Mettre en place tout l'ensemble mixé avec la musique et les bruitages. C'est un travail hyper technique et qui n'a évidemment rien de littéraire.
Alors, je pourrais faire la remarque que le travail éditorial a à peu près les mêmes fonctions d'un aller-retour entre l'auteur et son éditeur, ses correcteurs, pour dire « bon, bah là, ta phrase, t'as une répétition, c'est du coupage, c'est du montage ».
Oui.
Après, il n'y a pas l'aspect technologique qu'on fait avec les ordi, mais oui, il y a de ça, c'est vrai.
Bah pour ma part, pour parler du coup, une petite aparté pour à peu près tous les éléments que j'étudie. Pour le jeu vidéo, c'est évident. Même moi, quand j'ai commencé mes recherches, je me demandais si c'était pas plutôt du cinéma, du fait que c'était très visuel, que c'était également sonore. Donc évidemment, il n'y a pas vraiment de texte, à part les annexes dont on a déjà parlé. Mais pourtant... je trouve que ce qui n'est pas dit dans des phrases type Gérard fait telle action, en fait on le voit. Donc finalement la narration se fait comme ça. Pour les autres, en fait le problème de mes autres objets de recherche, ça va être une incapacité totale de vivre ces œuvres quand on n'a pas été là au moment où elles ont à leur moment fort. C'est-à-dire que tous les jeux en réalité alternée, c'est des jeux. C'est-à-dire que si t'es pas là quand il est en train d'être joué, tu peux pas spécialement le revivre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui se placent dans la vraie vie, il y a beaucoup d'éléments qui vont disparaître parce que les ARG, la plupart du temps, ça fait 10 ans quoi, que ça existe. Donc Internet a beaucoup évolué, il y a des noms de domaines qui ont disparu, il y a pas mal de sources qui ont disparu. Donc en fait, tu peux pas les consommer comme tu consommerais, ou alors il faut faire des allers-retours avec tous les archives du net, il faut être très minutieux, il faut vraiment chercher, et du coup, ça peut être frustrant parce que tu peux pas juste, comme dans un livre, t'as juste l'histoire qui se déroule devant toi, t'as pas de travail à de recherche à faire de toi-même. Et en ça, ça s'éloigne de la littérature.
Ouais, mais du coup, ça veut dire que c'est pas de la littérature.
Eh ben, on n'a jamais revendiqué le fait que ces objets de recherche soient de la littérature pure et dure, en fait. Hein. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre quand ils nous posent la question, c'est que... Nous, ce qu'on revendique, c'est que ce sont des objets hybrides qui se revendiquent partiellement la littérature. Moi, ma réponse à ta question précédente le prouve. Il y a un travail littéraire dans le travail d'écriture, indéniable. En plus, moi, mon œuvre est rimée. Enfin, je veux dire, il y a tout un système de versification à étudier. Il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Après, c'est un travail qui se couple à d'autres aspects, comme on en a parlé, cinéma, théâtre, tout ça. Bon, enfin, ce sont plusieurs pratiques qui se mixent ensemble pour créer un objet nouveau, un objet essentiellement hybride, en fait. Et donc, la littérature est là. C'est juste qu'elle n'est pas, elle ne fait pas toute l'œuvre comme elle fait tout le livre.
Finalement, c'est un petit peu hypocrite de refuser l'étude de ces objets qui sont... un peu étrange, underground, parce que tous les arts s'inspirent les uns des autres et ont une filiation. Et en fait, finalement, se cantonner à un type de littérature, c'est nier l'évolution des arts et l'évolution de nos approches et de nos ressentis. Et finalement, c'est se couper l'herbe sous le pied, totalement. Toutes ces œuvres qui sont considérées comme n'étant pas de la littérature, ces œuvres, elles vont nous dire quelque chose de très vrai.
D'ancré dans le réel.
En fait, elles utilisent notre langage pour s'exprimer à travers nous. tous les types de récits que maintenant on considère comme légitimes ont été d'abord considérés comme illégitimes et ils disaient quelque chose de vrai sur leur contexte. En fait, il faut pas enlever le contexte de l'œuvre. Et je trouve que quand on rejette le jeu vidéo des pratiques littéraires, on ferme les yeux sur ce qu'est notre réalité. Et...
ouais, peut-être que finalement, ce qui nous parle le mieux de nous et de l'époque à laquelle on vit, ça reste les objets hybrides, du coup.
Merci de nous avoir écoutés. Pour approfondir le sujet de la littérature sauvage, n'hésitez pas à consulter la revue Éco-écrit, il y aura le lien en description, et une version papier sera également disponible. Et si vous voulez explorer d'autres sujets, retrouvez les autres podcasts de Studio Dilettante sur notre Twitter ou sur notre Facebook. Et si vous aimez bien ce qu'on fait, n'hésitez pas à nous soutenir sur notre Tipeee, tipeee.com/studio-dilettante. À bientôt!